te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là, de la prison, avant que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Voilà le texte super bateau que Jésus nous rappelle ce matin. Jésus ne dit rien de nouveau par rapport à l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Jésus dit à nouveau, revenez à Dieu, tournez-vous vers lui totalement, intégralement, et laissez-le agir dans votre vie. Le prophète Jérémie l'avait dit aussi, arrêtez de prendre Dieu pour un imbécile en venant dans le temple vous faire pardonner et à l'extérieur vous faites n'importe quoi. Jésus le redit. Si donc tu présentes ton offrande et que tu te souviens que tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord régler ton problème et reviens présenter ton offrande à l'autel. Jésus nous appelle à être cohérents. Et dans son enseignement, il ne va pas abolir la loi, mais il va expliquer la loi. Jésus, son but, c'est d'expliquer l'esprit de la loi et non la règle d'un point de vue très légaliste. Si on regarde ce texte, on voit que Jésus parle aux personnes qui ont offensé d'autres personnes. Verset 21, on voit qu'il est question de meurtre. Le meurtre, qu'il soit notre frère ou pas. Au verset 22, il parle de se mettre en colère contre son frère. Donc, je me mets en colère, j'offense mon frère. Versets 23 et 24, il parle de traiter son frère d'imbécile ou raca, d'insensé, de vide, de bon à rien, en français courant. Donc, c'est là le frère qui offense son autre frère. Après, il parle d'un croyant vis-à-vis d'un non-croyant, ton adversaire. Si tu as fait quelque chose à ton adversaire, va d'abord te réconcilier avec lui, avant qu'il te livre au juge. Et si tu vas au juge, tu vas payer jusqu'au dernier centime. Donc, c'est quand, une fois à nouveau, que tu as offensé ton frère. Ce texte ne nous parle pas directement de la personne qui est offensée. Il parle indirectement du pardon et de la réconciliation. Je vous propose de nous positionner en tant qu'offenseur. Je suis un offenseur. Ensuite, de voir la culpabilité que nous avons. Et enfin, de voir que nous devons pardonner. Donc, je vous propose le plan suivant. Je n'aurai pas plus de slides. Ça s'arrêtera là. Comme ça, vous pouvez voir la progression et à quel moment vous devez vous réveiller. Je suis un offenseur. Nous pouvons offenser des personnes de manière volontaire ou involontaire. Mais là, je ne vais pas parler de la façon volontaire, parce que ça serait trop simple. Je vais plutôt parler de la façon involontaire d'offenser notre frère. Là, Jésus, il utilise à peu près la même formulation qu'on retrouve dans le livre Les Lévitiques, à savoir, si tu te souviens que tu as fait quelque chose, si tu te souviens que tu as péché, alors va faire un sacrifice d'expiation, va faire un sacrifice pour te faire pardonner de tes péchés. Mais il faut d'abord que tu te souviennes que tu as péché. Si tu te souviens que tu as quelque chose envers ton frère, va le trouver pour te réconcilier. Le sacrifice ne s'effectue toujours après une prise de conscience du péché. On ne va pas aller demander à notre frère pardon alors qu'on ne sait même pas ce qu'il nous a fait ou ce qu'on lui a fait. Le sacrifice s'effectue toujours après le péché. Le pardon s'effectue toujours après la prise de conscience de notre faute. Jésus, comme je disais tout à l'heure, parle de l'esprit de la loi et non de la loi en elle-même. Mais quand même, il donne trois exemples d'offenses. Il nous parle du meurtre, ça c'est assez clair. Ensuite, il va nous parler des pensées, des colères, de la colère. Et ensuite, il parlera de l'action, des gestes et des paroles. Son objectif à Jésus n'est pas de nous donner des règles pour arriver vers son Père. Le but de Jésus, c'est de nous prendre par la main et de nous accompagner vers son Père. Et ça change tout. C'est-à-dire que la loi n'est pas faite pour avancer dans ce labyrinthe et arriver vers Dieu. La loi est juste faite pour nous accompagner vers Dieu. Et Jésus est à côté de nous pour nous accompagner vers Dieu. C'est-à-dire que Jésus est déjà là. Nous ne faisons pas les choses juste pour lui faire plaisir et pour espérer arriver vers lui. Nous pouvons être des offenseurs par la pensée. Après, crier, murmurer, taper, tuer sont juste des manifestations extérieures de notre colère, de nos pensées. La colère se trouve dans notre tête avant de s'exprimer. Nous avons été blessés, offensés par un frère. De ce fait, on va réagir d'abord intérieurement, ensuite on va se mettre en colère. Et là, on va commencer à se trouver des justifications. Mais c'est normal que je me mette en colère. Vu tout ce qu'il m'a fait, je ne peux pas faire autrement. Je dirais que c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a deux problèmes dans l'offense. Il y a la personne qui offense et la personne qui reçoit l'offense. Il y a notre problème envers l'autre personne qui nous a offensé. Il y a le problème de la personne qui nous a offensé envers nous. Notre justification ne dépend pas forcément de l'offense. Et je voudrais juste faire la parenthèse sur la colère. On parle souvent d'une sainte colère, une sainte colère, la colère de Dieu et de la haine de Dieu. Alors, nous aussi, nous pouvons avoir de la colère et de la haine. Si Dieu en a, pourquoi pas nous? Encore une fois, je dirais oui, c'est vrai. Jacques Buchod, un professeur de Nouveau Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui est venu durant l'été, ici, dans son livre « Le pardon et l'oubli », parle de Dieu dans l'Ancien Testament et dit « L'Ancien Testament dévoile la haine de Dieu qui suscite en lui les offenses des êtres humains, l'impiété et l'injustice envers le prochain. Haïssant le mal, le Seigneur aussi de la haine envers celui qui le commet. » Dieu dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament a de la haine et de la colère. Mais le problème, c'est que la nôtre n'est pas souvent motivée par les mêmes choses. La nôtre est souvent motivée parce que nous avons été blessés, parce que notre amour-propre a été blessé, parce que nous avons perdu un intérêt, mais pas parce que nous aimons la personne. La haine et la colère des hommes sont dans la plupart du temps des attitudes négatives. Celles de Dieu sont toujours des attitudes positives. La haine des hommes, c'est un refus d'aimer, alors que celle de Dieu se manifeste à cause de son amour pour la justice. La colère que nous pouvons avoir, elle vise à détruire notre personne. Celle de Dieu est là pour punir. Les hommes sont minés par la haine et sont dominés par leur colère, alors que Dieu contrôle tout. Nous sommes prompts à s'irriter. Quant à Dieu, lui, il est lent à la colère et il désire pardonner. Notre haine et notre colère sont souvent très excessives et manquent cruellement d'amour. C'est pourquoi Paul le rappellera. Il condamne la colère et dit « Si vous mettez en colère, ne péchez pas. » notre colère et notre haine n'est pas toujours aussi saine et sainte que celle de Dieu. Bien au contraire. Nous allons chercher plus à défendre nos intérêts qu'à exprimer notre amour vis-à-vis de Dieu et à notre rejet, exprimer notre rejet du péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu haïssait déjà le mal. Il le disait dans le Lévitique, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Dieu a de la haine, mais il rappelle à chaque fois. Vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez pas. Nous avons la pensée. En pensée, nous pouvons offenser des personnes. Mais une fois qu'on a pensé, on va agir. Encore une fois, je ne parle pas agir juste, tuer juste pour le fait de tuer. Ça, on comprend bien. Même la société française est contre ça. Je parle de agir en signe de réaction, bien souvent. Verset 22. Celui qui dit à son frère Raca et insensé sera passible, sera justiciable pardon, du Sanhédrin et passible du feu de la Géhenne. Notre réaction face à l'offense est souvent d'offenser. Nous devenons des offensés offenseurs. C'est souvent un effet ping-pong. Et on peut être offensé très rapidement, même à l'église. Je parlais en premier pour moi. En premier, je viens ce matin parler de la part de Dieu, ou du moins je l'espère. Et là, des personnes, à la fin, me disent « Je n'ai rien compris, et puis ça, c'était pourri, t'as raconté n'importe quoi. » Comment je vais récupérer ce morceau ? Je vais me sentir d'abord, je vais me sentir un échec parce que je n'aurais pas pensé écouter la parole de Dieu ou parce que je me sentirais, j'aurais pas écouté Dieu me parler à travers la préparation. Et mon premier point de vue, ma première réaction risque d'être, mais t'as rien compris, t'es bête, c'est toi qui as rien compris. Et à mon tour, alors que je suis offensé, je vais devenir un offenseur. D'abord, je vais me mettre en colère parce que je trouve pas c'est justifié, certes. Mais ma façon de réagir fait de moi un offenseur. On peut transposer ça pour quand vous allez animer une discussion biblique, quand vous allez enseigner les enfants, quand vous allez donner des consignes, peu importe, pour la sono, pour le ménage, pour des services, et que les personnes ne comprennent pas, on a facile à dire « tu es bête ». Dans le couple, on dit, on va aller là-bas. L'autre personne, on lui explique comment y aller. Mais elle ne comprend rien. Alors, on va lui dire, mais si, rappelle-toi, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. Et là, à la fin, soit on lui dit, tu ne comprends rien, et ce qui peut offenser la personne, soit, de manière plus subtile, pour les hommes, ils diront, je prends le volant. Et tout ça, ça peut choquer. Ça peut offenser. L'offense n'est pas je m'amuse à répéter que l'offense n'est pas justement tuer, c'est blesser son frère. C'est là où on arrive à comment je suis devenu un offenseur. Comment je peux blesser mon frère ? Ou même, pas mon frère, les autres personnes. Parce que nous n'avons pas la même vision du monde, tout simplement. C'est très simple, hein ? Parce que nous sommes élevés dans une culture particulière, nous avons subi des traumatismes particuliers, nous avons un vécu, et ce vécu nous fait... on interprète les choses différemment. Pour une même action, des personnes vont interpréter les choses différemment. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les chrétiens de Corinthe. Ils n'avaient pas la même vision du monde. Les uns... Vous vous souvenez peut-être du problème qu'ils ont eu avec les viandes sacrifiées dans 1 Corinthiens 8. où les uns disaient, oui, on peut manger de la viande qui est vendue au marché, parce que cette viande, a priori, servait au sacrifice des idoles, mais le surplus, ce qui restait, on le revendait au marché. Et du coup, les uns, ils disaient, oui, on peut manger de tout, pas de problème. Ils disaient, hein, en Corinthiens 8, nous savons, qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il continue, car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais le problème, c'est que les autres, Paul dira, cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Les uns ont changé leur vision du monde, ou du moins ont commencé à la changer, et à adopter la vision du monde céleste, mais les autres n'ont pas changé totalement, ou du moins sont un peu plus loin dans leur changement. Du coup, il y a des conflits. Il y a des conflits parce que les uns se réfèrent à une vision, les autres à une autre vision. Et c'est source de tension. Paul continue par dire, vous pouvez manger de tout, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Et il continue, hein, il dit, en péchant de la sorte contre ton frère, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Paul leur rappelle, oui, ils n'ont peut-être pas la bonne vision du monde, mais quand même, il faut faire attention à eux. Il faut faire attention à ce qu'à leur tour, ils ne pêchent pas. J'étais au GBU avant à Orléans et on faisait la discussion autour de la Bible dans un bar. Un lieu ouvert, on était contents. Et j'avais pour l'habitude de prendre une bière quand j'animais ou enfin, quand j'étais là. Donc, mais le problème, c'est que des gens étaient choqués par ça. Et des gens ne sont plus revenus à cause de ça. J'ai eu deux réactions. La première, mais de me dire, il comprend rien, tant pis pour lui. Quelques temps après, peut-être que 2-3 semaines, hein, il y a eu un délai quand même, je me suis dit, je vais prendre un café. Peu importe si je pense que c'est bien ou mal, le problème c'est que mon frère ne vient plus à l'étude biblique et on ne peut plus se réjouir ensemble. Et je l'offense, et puis ça peut peut-être le détourner de Dieu. Donc j'ai continué par prendre un café. Et on a discuté justement de notre vision du monde, pour savoir pourquoi il pensait ça, pourquoi je pensais ça. Et du coup, c'était bien de savoir comment il pense, et puis on a pu chacun s'enrichir de nos visions du monde différents, et en essayant de se rapprocher plus de la vision du monde céleste. Le problème, c'est que, certes, c'est bien d'être différent, mais les différences sont source de tensions et de conflits. Nos différences aussi se voient dans l'Église. Des personnes sont nées dans une culture chrétienne, d'autres pas du tout. Et du coup, on n'avance pas forcément en même temps, ensemble, du moins parallèlement. Et ce qui fait qu'il y en a qui comprennent des choses plus vite que d'autres. Et des fois, on peut les oublier. Attention à nos comportements qui peuvent offenser nos frères, à nos paroles, comme je me souviens François Bauger qui avait dit au culte de partage, attention à nos paroles qui peuvent blesser, qui sont très puissantes. Et on ne s'en rend pas souvent compte. Demandons aussi à Dieu de nous révéler quand nous offensons des gens, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, pour que nous puissions aller voir ces personnes. Nous pouvons aussi devenir des offenseurs, comme je le disais tout à l'heure, en réponse à une offense. Il m'a offensé, du coup, je lui bousillais sa tête. Normal. Enfin, du moins, très humain. C'est ce qui s'est passé avec Absalom, Tamar et Amnon. Il n'y a pas un prénom facile, hein. J'espère que personne ne s'appelle comme ça. Amnon, qui a violé sa sœur parce qu'il l'a trouvée belle. Du coup, son frère, il s'est mis en colère, il n'était pas content. Justifié, il est en colère contre le péché. Le problème, c'est qu'à son tour, il a ruminé pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il va tuer son frère. Donc, il a été offensé et est devenu offenseur. Ça, c'est très, très caricatural, un meurtre. Du coup, on va vouloir faire justice nous-mêmes et on va à notre tour tuer ou pas très loin. C'est ce qu'on peut voir ça aux infos. Mais il y a des choses plus simples. Du coup, je suis coupable si j'offense mon frère. Je suis d'abord coupable vis-à-vis de lui, vis-à-vis des hommes. Je disais, je le répète, par notre offense, des personnes peuvent s'éloigner de Dieu. Et on lui donne aussi l'occasion de pécher à son tour. Et du coup, ça doit nous aider à réfléchir avant d'offenser quelqu'un. D'une part, on va lui donner la potentialité de pécher, et d'autre part, on lui donne la possibilité de s'éloigner de Dieu. J'écoute des fois des personnes qui sont parties des églises à cause des comportements de certains. Et si, ils disent, hein, si les chrétiens agissent comme ça, si l'Église agit comme ça, alors je ne viens plus à l'Église. Ça éloigne des personnes de Dieu, nos comportements. Mais plus que des hommes, nous sommes coupables devant Dieu. David, qui a couché avec Bathsheba, qui a pris la femme d'un autre, et qui a monté tout un stratagème pour tuer justement cet homme, Uri, quand il prend conscience, enfin quand un prophète vient lui dire qu'il a péché et qu'il en prend conscience, il va demander pardon à Dieu. Il va reconnaître son péché, mais il va dire « J'ai péché contre Dieu seul. » Jésus, au chapitre 25 de Matthieu, dans une des paraboles du royaume, où il parle de séparer les boucs avec les moutons, il dira à un moment, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Et les gens lui demandent, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Quand est-ce qu'on a fait ça? Et il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Tout à l'heure aussi, dans le texte de Corinthiens, où il dit à la fin, si tu as péché, c'est contre Christ que tu pèches. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, c'est pécher contre Christ, 1 Corinthiens 8. Offenser un frère, c'est offenser Dieu. Et qu'est-ce que ce texte nous parle, si nous offensons, si nous blessons notre frère, c'est que nous sommes justiciables du Sanhédrin et nous sommes passibles du feu de la Géhenne. C'est pas rien. C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Numéro 3. Ça va, vous suivez Dieu nous demande de nous réconcilier avec notre frère et pardonner, et le pardonner, et nous mettre d'accord tant que nous sommes en chemin avec lui, avec notre adversaire. Ce qu'il veut, c'est que nous présentons devant lui les mains pures. En tout cas, la conscience, je pourrais dire, légère. Bien sûr, on peut pécher, mais on n'a pas forcément conscience de tous nos péchés. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, d'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Tous les péchés dont on a conscience, il faut demander pardon à notre frère, si envers notre frère. Dieu le Fils, nous demande de pardonner si nous avons offensé quelqu'un. Dans le Notre Père, il dira « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Quand nous offensons quelqu'un, nous avons une dette envers lui. Et je vais... Souvent... Non, je le dirai après ça. Nous avons une dette envers quelqu'un. Souvent, oui, on parle de pardon, et même pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le mot « dette » nous surprend beaucoup. Et en fait, non. Quand nous blessons quelqu'un, nous avons une dette envers lui. Quand, si je vole la voiture d'une personne et qu'on lui offre une voiture encore plus belle que celle que j'ai volée, les personnes peuvent être consolées. Mais je lui dois toujours une voiture. J'ai toujours ma dette envers cette personne. Même si cette personne est consolée, j'ai toujours ma dette envers elle. Donc le pardon n'est pas forcément la consolation. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Dieu, dans la Bible, désire pardonner. Il donne souvent, il propose des clés pour se faire pardonner. Donc la loi dans l'Ancien Testament, toutes les règles du Lévitique, c'est Dieu qui est offensé et qui va voir son peuple, lui va dire, si tu veux revenir à moi, alors je te propose de te repentir. C'est ce qu'a fait aussi Jean-Baptiste et les autres. Dieu souhaite que nous nous repentions, qu'on se repente. Hein. Dieu veut que nous vivions. Je souhaite que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité de Jésus. Dieu nous demande d'être saints comme lui aussi est saint. Il demande qu'on lui ressemble. Si Dieu désire pardonner, nous devons désirer pardonner. Dans une autre parabole, il est question de Jésus, dans Matthieu 18, il est question d'un maître et de son esclave, de son serviteur. Son esclave, son serviteur, lui doit plein d'argent et le maître a besoin de veut son argent. L'esclave implore le pardon du maître. Le maître lui octroie son pardon, lui remet ses dettes, parce que c'est une histoire d'argent, lui remet sa dette. Ce même esclave, à lui, on lui doit aussi de l'argent, mais beaucoup moins. Il va aller voir cette personne qui lui doit de l'argent. Cette personne va aussi implorer son pardon, de lui remettre ses dettes, mais elle va refuser. Le maître, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il est irrité, il va le livrer au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le problème dans cette parabole, dans cette histoire, ce n'est pas que l'esclave et demander l'argent qu'on lui devait, c'est légitime. Le problème, c'est qu'il était ingrat envers la miséricorde du maître. Il était ingrat envers Dieu. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous pardonne. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour payer notre dette et pour nous la remettre. Nous étions condamnés à mort, mais Dieu, dans son désir de pardonner, nous a proposé son Fils afin que nous ayons la vie. Dieu nous pardonne et nous devons pardonner. Il ne nous demande pas, il dit, si vous voulez pardonner, faites-le. Non, pardonnez. Ne pas pardonner, ça serait ne pas reconnaître la valeur de la croix. Ça serait se prendre plus grand que Dieu. Ça serait aussi juger à la place de Dieu. C'est Dieu qui juge. C'est pas nous. Si Dieu décide de ne pas pardonner, c'est Dieu qui décide et c'est pas nous. C'est là que j'arrive au pardon un peu plus spécifiquement. Pardonner, c'est une prérogative de Dieu. C'est une qualité de Dieu. C'est Dieu seul qui pardonne. Nous, en fait, on fait que manifester son pardon. pas notre amour envers cette personne. Dieu lui remet la dette à une personne en vertu de l'œuvre de son Fils. Il acquitte un coupable qui met sa foi en lui. Jésus-Christ nous offre le pardon par son sacrifice. Mais il nous offre juste le pardon, et c'est à nous de le reconnaître. C'est à nous de reconnaître, c'est un exemple, c'est à nous de reconnaître que Dieu, que nous avons offensé Dieu, et qu'il nous offre la possibilité d'être pardonné. La justification de Dieu vient après le pardon. Nous reconnaissons que nous avons une dette envers Dieu, et Dieu nous remet cette dette et nous pardonne. Si il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il prêchait que les gens se repentent pour être pardonnés. Pierre, dans Acte 2, avec ses potes, il parlait à la foule, et à un moment, la foule leur a dit « Mais que devons-nous faire ?» Et leur réponse, c'était « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Jésus lui a dit aussi « Si vous ne repentez pas, vous périrez. » Si vous ne reconnaissez pas que vous avez une dette envers Dieu, Dieu ne peut pas vous la pardonner. Le pardon passe par la repentance. Et c'est là que je disais tout à l'heure, j'avais un peu amorcé, ne pas confondre pardonner à quelqu'un et remettre à Dieu nos griefs, ou du moins être consolé. Souvent, quand nous sommes offensés, nous sommes blessés, et suivant ce qui a été fait, la blessure peut être plus ou moins douloureuse. Est-ce que notre rôle en tant qu'offensé, c'est de remettre à Dieu nos sentiments et nos griefs contre cette personne, et Dieu viendra nous soigner de ces blessures. Mais ça n'empêche que la personne ne s'est pas repentie, n'a pas demandé pardon, ou du moins n'est pas venu s'expliquer avec son offensé. L'offenseur n'est pas venu voir l'offensé. Ce qui fait que la dette est toujours ici. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. La dette est toujours là. Le mal est toujours là. Jacques Buchol, dans son livre justement sur le pardon et l'oubli, prend l'exemple d'une personne qui a été blessée par d'autres de l'Église. Mais du fait qu'elle est partie de l'Église, qu'elle s'est éloignée, elle est revenue, ses blessures ont été guéries, mais elle n'est jamais venue s'expliquer avec cette personne. Ce qui fait que le problème est toujours là. Il y a toujours, pas un espèce de mal-être, mais il y a toujours une dette entre ces personnes. Le mal qui a été commis est toujours là. Le mal n'a pas été mis en lumière de n'importe quelle partie qu'il vienne, hein. Mais en tout cas, le mal est toujours là. Ne pas pardonner, en se disant « oui, ça va mieux, je suis guéri », dire « c'est bon, tout va bien », le mal est toujours là, la dette est toujours là. Et le frère qui vous a offensé est toujours coupable de sa dette. Il vous doit toujours quelque chose, ou il doit à Dieu toujours quelque chose. Et par la même occasion, on cautionne ce comportement. C'est-à-dire que si nous laissons le mal-être dans l'assemblée comme ça, le mal est toujours là et on dit que c'est normal. Ça finit par une normalité. Donc le pardon, aller voir la personne, se repentir, est nécessaire pour que la vérité soit mise en lumière. Dans Paul aux Éphésiens dira aussi « Pardonnez, soyez bons les uns envers les autres, Et du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est là, il faut que la personne demande pardon. Mais pour qu'elle demande pardon, il faut lui donner l'occasion de se repentir. Jésus, c'est un peu le modèle, hein. Souvent, Jésus, c'est un peu le modèle de beaucoup de choses, ce qui est bien. Jésus, quand Pierre l'a renié 3 fois, Jésus a été offensé. Il était blessé par Pierre. Mais quand Jésus est revenu, à un moment, il va demander à Pierre, m'aimes-tu ? Il va demander par 3 fois, m'aimes-tu ? Il va lui donner l'occasion à Pierre de remontrer son amour envers Jésus et de lui demander pardon. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? 3 fois, il va dire ça. Dieu nous offre la possibilité de nous repentir. Quand, lors des messages à l'Église, nous avons pris la scène, Dieu nous propose de nous repentir avant de prendre la scène. Réfléchissez à votre conduite. Si tu apportes ton offrande, si tu as un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui et ensuite apporte ton offrande. Dieu nous donne souvent la possibilité de nous repentir pour nous pardonner. C'est lui qui s'approche de nous et dit, viens, il y a un problème, tu as une dette envers moi. C'est ça ce qu'on appelle dans la conversion. Dieu vient nous parler, il nous dit qu'on a une dette envers lui, que nous sommes pécheurs, que nous l'avons offensé. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous avons une dette envers lui, et Dieu nous pardonne. Mais c'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes approchés de lui, en premier lieu. Ça, c'est le modèle de Dieu. Et Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Nous aussi, nous devons donner l'occasion à nos offenseurs d'être pardonnés. Nous aussi, nous devons aller les voir si nous sommes offensés pour leur donner la possibilité de se repentir. Sinon, ils sont toujours coupables. Bien sûr, Dieu les a justifiés par le sang du Christ. Mais quand même, ils sont coupables. C'est pourquoi Jésus les appelle. Si tu te souviens qu'il y a quelque chose envers ton frère, va le voir. Va le voir. Si vous vous souvenez que vous avez quelque chose envers votre frère de l'assemblée, allez le voir à la fin. Réconciliez-vous avec lui. Et ça sera bénéfique pour les deux parties. Autant pour l'offensé que pour l'offenseur. Si je veux résumer un petit peu ce que j'ai raconté, nous sommes tous des offenseurs de quelqu'un. Nous pouvons offenser des gens par notre pensée, intérieurement, mais aussi par nos paroles, par nos actes. Nous vous offensons souvent les gens parce que nous n'avons pas la même vision du monde, parce que nous avons été élevés dans des cultures différentes. Nous pouvons offenser des gens parce que nous répondons aussi à une offense. Et notre nature charnelle reprend le dessus et à son tour offense. Quand nous sommes offenseurs, nous sommes aussi coupables devant les personnes premièrement ou devant Dieu premièrement et devant les personnes. Tout ce que vous faites, c'est à Dieu que vous le faites. Il ne faut pas que nous oublions que tout ce que nous faisons ici, aux autres, c'est à Dieu que nous le faisons, à ses enfants. Je dois pardonner. Dieu me demande de pardonner, parce que lui pardonne. Lui qui est lent à la colère, il nous demande aussi de pardonner. Il nous demande d'offrir la possibilité aux personnes de se repentir pour, à notre tour, pardonner, symboliser le pardon de Dieu. Par notre union au Christ, Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17, 3. C'est ce que je vous invite à faire. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Demande-lui de te donner de l'amour, d'être saint comme lui est saint. Voilà ce que Jésus enseigne à la foule. Voilà ce que Jésus nous enseigne. La loi est là, mais le problème, ce n'est pas la loi. C'est de comprendre ce que veut dire la loi. Et la loi, ne pas tuer, c'est aussi ne pas se mettre en colère. C'est aussi ne pas professer du mal contre son frère ou son adversaire. Pardonnez, et vous serez pardonné. Amen.